évidemment peut-être un peu long. Je ne me rends pas compte du temps qu'il va nous falloir pour mener à bien cette réflexion sur la vie de Samson telle qu'elle nous est racontée par les quatre chapitres des juges que l'on vient de lire. J'espère que vous en avez gardé la mémoire, en tout cas ce n'est pas la première fois que vous lisez ces passages. Et je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais il faut toujours penser quelque chose, il faut toujours réfléchir, et ce qu'un chrétien peut se dire en lisant ces chapitres-là, eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà un homme qui est un véritable casseur, il casse tout, il provoque des incidents, et Dieu s'est servi de lui, comprend pas. Mais il faut que nous comprenions, évidemment, ce que Dieu a voulu faire. Au moment où commence cette histoire, Israël est asservi aux Philistins. Philistins qui occupent la Philistie, c'est-à-dire une bande de terrain le long de la Méditerranée, qui était beaucoup plus large que n'est la bande de Gaza maintenant, mais la bande de Gaza est toujours le vestige de l'ancienne Philistie. Donc les Philistins asservissaient, et le chapitre 13 nous dit que cela a duré 40 ans. C'était une épreuve de caractère punitif, parce que, en effet, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Donc l'Éternel a laissé ses ennemis prendre avantage sur Israël et domination sur le peuple de Dieu. Mais voici que naît cet homme appelé Samson, et sa naissance revêt un caractère tout à fait exceptionnel. Sa mère est stérile, et l'Éternel va la rendre féconde, c'est ce que le chapitre 13 nous a appris. Dans ce chapitre 13, au moment de cette information, proclamation qui est apportée à la femme de Manoac, la mère, future mère de Samson, il y a apparition de l'ange de l'Éternel, et l'ange de l'Éternel est celui que nous connaissons maintenant comme le Seigneur Jésus-Christ. Une double apparition d'ailleurs, il y a aussi une annonce de la destinée de cet enfant qui est annoncé à la femme de Manoac, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, mais prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Voilà donc la mission que Dieu va confier à ce fils dont il provoque la venue chez une femme qui était stérile. Et par conséquent, nous pouvons dire que le caractère particulier de la naissance de Samson apparente celui-ci à d'autres grands auxiliaires de Dieu qui sont Isaac, qui est né aussi de Sarah qui était stérile et qui est même en plus très âgée, et pourtant Dieu lui a donné un fils, et qui est Isaac. Et puis la naissance de Jacob et d'Ésaü. La mère de ces deux-là était Rebecca, stérile également. Il y a aussi Joseph et Benjamin, nés de Rachel, femme de Jacob, stérile aussi. Elle enfanta à la fin deux enfants, Joseph et Benjamin, toujours par l'action puissante du Saint-Esprit. Samuel, la mère de Samuel s'appelait Anne, elle était stérile aussi, jusqu'au moment où Dieu lui donna un fils. Et puis, plus loin, alors dans l'histoire moderne, bien après, bien sûr, Samson, Jean-Baptiste qui naîtra d'une mère stérile et âgée, elle aussi. Tout comme Jérémie, Samson est consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, selon l'expression employée, dès avant sa naissance. De plus, lui, il est naziréen. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est le naziréat, c'est une consécration particulière à Dieu, et l'un des signes du naziréat, c'était la chevelure qu'il fallait laisser pousser. Il ne fallait pas faire passer le rasoir sur la tête. Et là, il sera naziréen toute sa vie. Samson prend donc place parmi les grands serviteurs de Dieu, destinés à une certaine œuvre, une œuvre particulière, importante, cela dès avant même leur naissance. Et alors la question qu'il faut poser tout de suite, à quelle œuvre Dieu destine-t-il Samson? Si nous relisons dans le chapitre 13 les versets 24 et 25, nous avons ceci: la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Samson est béni. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à macaner dans entre Tsoréa et Eshtaol. L'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Voilà un homme auxiliaire de Dieu, et qui est agité, et le mot n'est pas trop fort. Nous avons lu ses différents exploits, c'est vraiment un agité. Voyons-le déjà comme cela. Au chapitre 14, nous voyons que c'est sur une direction de l'Éternel que Samson veut se marier avec une Philistine, une femme des Philistins. Ce peuple, donc païen, peuple incirconcis, qui dominait à ce moment-là sur le peuple de Dieu. Il veut se marier avec une Philistine, et cela pour provoquer une dispute, autrement dit, pour allumer la guerre. Ah, c'est curieux, bien curieux, n'est-ce pas, comme mission. Et cela, n'est-ce pas, sur une direction éternelle. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Ce chapitre 14 raconte ensuite comment Samson déchira un lion, saisi par l'esprit de l'Éternel, qui lui donne une force herculéenne. Et un peu plus tard, il trouva un essaim d'abeilles et du miel dans le cadavre, le corps du lion qu'il avait déchiré. Puis, dans ce même chapitre toujours, nous arrivons alors au récit du festin des noces de Samson avec la femme philistine. C'est ce festin qui durait 7 jours. Et cela en pays philistin. Samson propose une énigme à deviner, avec pour gage celui qui la devinera, et si personne ne la devine, ce sont les Philistins qui devront lui donner le gage, et ce gage est de 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Même aujourd'hui, ça constituerait une valeur, hein, 30 chemises. Ils sont d'assez belles chemises et 30, mais à ce moment-là, c'était quelque chose, ça. C'était très important. Et cette énigme est la suivante: de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. C'est-à-dire, de celui qui mange le lion est sorti ce qui se mange le miel, et du fort, qu'est le lion, est sorti le doux, le miel. C'est pas bien extraordinaire comme énigme, enfin, les Philistins n'arrivent pas à expliquer cette énigme. Et bien entendu, ils voient bien venir le moment où ils vont devoir fournir les 30 chemises et les 30 vêtements de rechange. Mais la jeune mariée, Philistine, pleure. Pendant les 7 jours du festin de noces, elle pleure. Elle pleure et elle tourmente Samson pour que celui-ci lui donne le mot de l'énigme. Et à force de le tourmenter, elle obtient satisfaction et Samson lui dit ce que signifie son énigme. Alors, bien entendu, cette femme le communique à ses amis philistins qui viennent fièrement trouver Samson et puis lui disent « Eh bien, c'est pas difficile, nous avons trouvé c'est le fort, celui qui mange, c'est le lion, et celui qui est mangé, ou le doux, c'est le miel. » Bon, ils ont trouvé, parce que, évidemment, Samson le leur dira, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, autrement dit, si vous n'étiez pas servi de ma femme, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit, lui donne encore une force extraordinaire, et il descend à Ascalon, en pays philistin, plein pays philistin, il tue 30 hommes, prit leurs dépouilles, et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère, il monta à la maison de son père, et sa femme fut donnée à un de ses compagnons. Voilà, en somme, comment se termine le chapitre 14. Mais tout ceci est parole de Dieu. Mais il faut bien dire que c'est pas facile de découvrir l'enseignement que cela porte. Que porte cette parole de Dieu? Pourtant, toute parole de Dieu porte un enseignement. Chapitre 15. Samson revient voir sa femme, Philistine. Or, là, le père l'empêche de rentrer chez elle en lui disant « Mais j'ai donné ta femme à un autre homme, à un de tes compagnons. » Alors Samson se venge. Et comment se venge-t-il? Il attrape 300 renards. En réalité, dans l'hébreu, je ne sais pas pourquoi on a mis renard. Nos traducteurs ne devaient pas connaître autre chose que les renards. C'est le mot hébreu, c'est « sual ». Et sual, ça veut dire chacal. Chacal. Alors, il faut avoir peut-être vécu un peu en Afrique du Nord pour savoir ce qu'est le chacal. Et ça concorde beaucoup mieux parce qu'attraper 300 renards, c'est pas bien facile. Tandis que 300 chacals, c'est beaucoup plus facile. Ils marchent par troupe en général et cela peut plus facilement s'expliquer. Alors, il prend ces 300 chacals. Et il attache les queues deux à deux. Hein? Et puis alors, au nœud de chaque double queue, là, il met un flambeau, puis il va l'allumer. Alors vous comprenez, ces animaux, n'est-ce pas, effrayés par le feu, puis se sentant liés l'un à l'autre, n'est-ce pas, s'élancent dans les champs de blé, et même dans les champs d'oliviers, de plantations d'oliviers, des Philistins, et ils amènent le feu, ils font un ravage terrible. Alors Samson, évidemment, est désigné comme celui qui a provoqué cette catastrophe, ce malheur. Les Philistins demandent pourquoi il a fait cela, on lui dit, mais c'est parce que on a donné sa femme à un compagnon. Alors, ils viennent chercher la femme, et le père, qui a donné la femme de Samson à un autre, et puis, il les brûle tous les deux. Il les tue, il les brûle. Bon, alors, voilà Samson qui apprend cela, et qui va se venger à nouveau. Ah, vous avez fait ça à ma femme? Et à mon beau-père, bon, eh bien, il va se venger à nouveau. On voit bien qu'il saisit toutes les occasions de faire des mauvais coups. Hein? Appelons-les mauvais coups, si vous voulez, n'est-ce pas? Il saisit toutes les occasions. Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. Alors, il les battit rudement, dos et ventre. Il leur donne en somme une rossée avec la force qu'il a. Puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étam. Mais alors cette fois-ci, voici que la guerre est sur le point de s'allumer. Samson finit par réussir et voici une armée philistine qui se met en route sur le territoire d'Israël. Alors, les hommes de Juda prennent peur, évidemment, et ils reprochent à Samson d'avoir provoqué toutes ces difficultés, et il se propose donc de s'emparer de lui et de le livrer aux Philistins. Et ils arrivent à leur fin, ils lient Samson avec deux cordes neuves et ils le livrent aux Philistins. Mais là, le récit nous dit que l'Esprit de l'Éternel saisit encore Samson, le fortifie, et miraculeusement, ces deux cordes neuves, ça devait être des grosses cordes, ces cordes neuves tombent de ses mains, et miraculeusement. Puis ensuite, avec une mâchoire d'âne fraîche qu'il trouve par là, il tue 1000 Philistins, il en fait une chanson, d'ailleurs, avec une mâchoire d'âne, deux monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes, il en fait une chanson. Et il a donc tué 1000 Philistins. Ensuite, il a soif. L'Éternel, qu'il invoque, fend le rocher, d'où sort de l'eau qui le désaltère. Donc voilà encore un exaucement de prière qu'il obtient aisément. Samson avait la qualité de juge en Israël, nous est-il dit. Puis nous arrivons au dernier chapitre, le chapitre 16, c'est le grand chapitre de la fin de l'histoire. Samson possède toujours une force herculéenne, et voilà que, après être allé chez une prostituée, il trouve une autre femme qui s'appelle Delila, et il se lie à elle. C'est une femme philistine. Et celle-ci va s'efforcer de lui faire dire le secret de sa force. Sur les indications de Samson, on le lit successivement avec sept cordes fraîches, puis avec des cordes neuves, puis au moyen de ses tresses et d'un tissu. À chaque fois, il se délivre. Et la femme Delila dit « Tu m'as menti, tu m'as trompé ». Enfin, après l'avoir longuement tourmenté, Delila reçoit la confidence du secret de sa force. Et Samson avoue qu'il est consacré à Dieu dès le ventre de sa mère et que le rasoir n'est jamais passé sur sa tête, sa chevelure n'a jamais été coupée. Elle est le signe de cette consécration, et cette consécration est la source de cette force extraordinaire dont il dispose. Si on lui rasait sa chevelure, il serait faible comme un autre homme, dit-il. Delila parvient à cela, les Philistins arrivent, se saisissent de Samson, qui en effet ne peut pas se débattre. Samson disait « Oh, je m'en tirerai comme les autres fois », mais quand l'Éternel s'est retiré, il n'y a plus moyen de se défendre avec la force que donne l'Éternel. Et alors les Philistins lui crèvent les yeux et lui font tourner une meule dans la prison où on l'enferme. Mais le temps passe et ses cheveux repoussent. Et lors d'une grande fête que les Philistins donnent en l'honneur de leur dieu Dagon, on s'amuse dans une sorte de grand temple ou de palais, on s'amuse à amener Samson pour le faire jouer, le voir jouer lui, il doit s'y prêter, probablement. Et puis alors, il y a quantité de gens, toute une foule qui vient et qui regarde, même sur le toit, 3000 personnes sur le toit de ce bâtiment. sais pas exactement comment il était, il y avait 3000 personnes qui étaient là et qui regardaient Samson jouer. Et il était curieux, évidemment, du fait de la légende qui s'était attachée à son nom, la légende d'un homme d'une force considérable. Samson se fait placer entre les deux principales colonnes, les deux principales colonnes qui soutenaient le milieu de la maison, et il supplie l'Éternel de lui donner encore, pour cette fois, la force qu'il a eue. Et l'ayant reçue, il s'arc-boute sur de toute cette force, il s'arc-boute sur les colonnes. Les colonnes étaient faites de cylindres de pierre posés les uns sur les autres, mais c'était en général, c'était large. Enfin, il arrive à cela avec cette force, il pousse les colonnes, bien sûr, tombent et tout l'édifice s'effondre. Et alors là, il y a une quantité de morts. Il y a eu beaucoup plus de morts que tout ce que Samson avait pu tuer au cours de ses 20 ans. Naturellement, Samson meurt, mais il l'a tué principalement tous les princes des Philistins. Voilà donc l'histoire. Voilà l'histoire. Et maintenant, il faut que nous arrivions à comprendre tout ce que tout cela signifie. Ces paroles de Dieu, je le répète, c'est une parole de Dieu, comme le reste. Alors, disons ceci, c'est que le terme de Samson est un diminutif de Shemesh, qui signifie soleil, ou certains le voient comme un diminutif de Shamam, qui signifie ravager. Je crois que c'est plutôt ça. Samson serait venu donc du mot hébreu shamam, signifiant ravager, parce que c'est un ravageur. À partir du chapitre 14, nous avons vu que Samson entrait en action, puisqu'à la fin du chapitre 13, il avait grandi, il était donc arrivé là à l'âge adulte, et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter, Il est évident que la morale chrétienne ne peut entrer en ligne de compte avec les exploits de Samson. Pas la peine de chercher quelque chose de moral là-dedans, hein, on aurait bien du mal à s'y retrouver. Il n'est pas question de voir ça, par conséquent, sous le jour d'une morale, et particulièrement de la nôtre, de la morale chrétienne. On peut aussi, comme l'ont fait certains prédicateurs, on peut faire transformer certaines parties du récit en allégorie, par exemple l'histoire du lion, du jeune lion rugissant qui vient devant Samson, que Samson déchire, et puis après l'essaim d'abeilles avec le miel dans le corps du lion, on peut transformer ça en allégorie, et alors là sur cette allégorie, on peut bâtir un message, par exemple, même d'évangélisation, cela s'est fait. Il y a d'autres parties aussi du récit de la vie de Samson qui peuvent se prêter à ça, mais il faut bien dire une chose, que c'est assez artificiel. Ce n'est pas pour cela que Samson a été suscité et que sa vie s'est déroulée comme nous le voyons. Donc, on peut dire aussi ceci, c'est que les prédécesseurs de Samson, les autres juges, eux, ils avaient affranchi le peuple d'Israël de la servitude de l'un ou de l'autre des peuples qui entouraient Israël. Il avait affranchi donc le peuple de la servitude en se plaçant à la tête d'une armée. Mais lui, Samson, il ne fait pas du tout cela. Il est juge, lui aussi, fait pas cela. Il agit librement et il agit tout seul. Librement et tout seul. Il ne compte que sur sa force miraculeuse, cette force que Dieu lui donne, l'Esprit de Dieu lui donne. Aussi, n'abat-il pas la puissance des Philistins, des ennemis, comme Gédéon, par exemple, a abattu celle des Médianites. Il faut bien aussi rappeler que dans le chapitre 13, la mission qui est confiée à Samson est celle-ci. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins, qui commencera. Il n'est pas dit qu'il mènera la délivrance à son terme, il commencera à délivrer. En se servant de Samson, le Naziréen, doué de cette force extraordinaire, Dieu avait une intention, un but, puisque nous l'avons dit, cet homme est né d'une façon particulière comme un Isaac, comme un Jean-Baptiste, et par conséquent, Dieu avait un plan important à conduire à bien par le moyen de cet homme. Dieu voulait donc quelque chose. Que voulait-il ? Il voulait faire cesser la domination que les Philistins exerçaient avec tranquillité sur le peuple d'Israël. Je dis bien avec tranquillité. Remarquez ceci, le peuple d'Israël est en somme sous l'occupation, nous savons ce que veut dire l'occupation, sous l'occupation des Philistins, et tout le monde a l'air de s'accorder. Samson, au début, veut épouser une femme philistine, ses parents lui disent, mais enfin, il y a peut-être tout de même dans notre peuple des filles que tu pourrais épouser sans aller chercher chez les incirconcis une femme. Pourquoi veux-tu aller là ? Mais cela venait de l'Éternel. En tout cas, on peut faire un mariage, on peut se rendre Israël peut se rendre chez les Philistins et faire 7 jours de festin. Tout semble bien s'arranger, en somme, entre la puissance dominante, les Philistins, et le peuple asservi qu'est Israël en l'occurrence. Le grand risque qu'il y avait donc, et que Dieu voit et auquel Dieu va parer, résidait en ce que les deux peuples, le peuple philistin et le peuple d'Israël, allaient peu à peu s'ajuster l'un à l'autre. Et peut-être plus tard, n'en former qu'un seul. La nation d'Israël, qui est une nation mise à part pour Dieu, risquait donc de se fondre en une autre nation, ou avec une autre nation pour former un ensemble, mais une autre nation qui était païenne, ce qui allait faire complètement échouer le plan de Dieu, le plan que Dieu avait en s'étant donné un peuple, s'étant formé un peuple mis à part, une nation mise à part. Et la mise à part de cette nation d'Israël était indispensable à l'accomplissement du plan divin. Donc Dieu entend parer à ce danger de fusion. Rappelons-nous un peu ce qui s'est passé quand la France a été occupée par les Allemands, enfin tout au moins la moitié de la France au début. Eh bien, il s'est passé ceci, c'est qu'il y avait des gens qu'on appelait des collaborateurs. Hein. Et puis, il y avait une autre fraction de gens qu'on appelait les résistants, ou la résistance. Alors, les collaborateurs, eux, eh bien, ils s'accommodaient de la présence allemande en France, et se disait, ben ma foi, il faut en prendre son parti, maintenant nous sommes vaincus, les Allemands sont forts, et puis le mieux qu'on ait à faire, c'est de s'entendre, et puis ma foi, comme les Allemands le proposent, on va fusionner, et il n'y aura plus, dans un certain avenir, ni Allemagne ni France, il y aura un seul grand État, une seule nation, il y aura fusion des deux peuples. Et la résistance ne voulait pas cela, voulait arriver à chasser les occupants qui étaient les Allemands. Et par conséquent, les résistants, que faisaient-ils? Ben, ils faisaient des coups, un peu comme fait Samson, comme a fait Samson. Ils faisaient des coups. Ils essayaient là où ils voyaient surtout que la fusion risquait de se produire entre Allemands et Français, n'est-ce pas? Alors là, ils venaient jeter de l'huile sur le feu, ils venaient provoquer des incidents pour empêcher justement cette fusion. Et c'est là une comparaison que l'on peut faire pour bien comprendre le plan de Dieu qui est celui-là. Empêcher la fusion entre les Philistins et Israël. Les Philistins, peuple païen, et la nation sainte, mise à part, qu'est Israël selon le plan de Dieu. Il fallait donc parer à ce danger de fusion et briser toute velléité d'entente entre les deux peuples en introduisant des éléments de séparation et de discorde entre eux. C'est cela la mission de Samson. C'est cela que Samson eut à faire. Il commença à délivrer Israël de la main des Philistins et prépara ainsi la libération du territoire par David. C'est David qui va réaliser plus tard la libération et il prépare aussi le règne de Yahvé également par David. On peut dire que les colonnes de cet édifice philistin que Samson renversa étaient un peu le symbole des colonnes de cette intention, de ce plan philistin d'absorption d'Israël. Les Philistins, eux, voulaient absorber Israël, le territoire et le peuple. En cette situation qui était excessivement scabreuse pour le plan de Dieu, c'était la guerre qu'il fallait, et non pas la paix. Et c'est pourquoi Samson est un agitateur. Voilà, Samson est un serviteur de Dieu, mais il sert Dieu étant un agitateur. Vous voyez, je rappelle cette mention de 13:25, et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à l'agiter. Et l'on voit en effet plusieurs fois l'Esprit de l'Éternel intervenir pour pousser Samson à provoquer des incidents par son mariage, par exemple, ou alors à lui donner une force extraordinaire pour qu'il réussisse à casser cette entente qui est en train de se former entre la nation sainte et un peuple païen. Il est un résistant, c'est un résistant. Un résistant qui ne veut pas laisser de repos à l'occupant et qui entretient l'incompatibilité foncière qui l'a fait revenir, l'incompatibilité entre les Israélites et les Philistins. Il empêche la fusion de la maison de Dieu avec une nation païenne, et c'est bien là l'objectif qui domine toute l'histoire de Samson. Le salut des hommes passe par la nécessité d'une séparation d'Israël, comme actuellement il passe par la nécessité d'une séparation de l'Église d'avec le monde. C'est exactement la même chose, le même problème. Si l'Église entre en accord et fusionne avec le monde, Alors là, un plein pied va s'établir entre l'Église et le monde, des échanges, et puis il n'y aura plus de différence entre l'Église et le monde, c'est fini. Le plan de Dieu est révoqué. Dieu n'a plus qu'à balayer une telle Église. Alors, nous pouvons nous poser la question, mais Samson a-t-il rempli convenablement son rôle? L'a-t-il rempli avec sagesse et avec maîtrise de soi? N'a-t-il pas suivi autre chose que la seule orientation du souffle de Dieu qui le fortifiait? Bien sûr. Cela, il faut dire que, en effet, Samson n'a pas rempli convenablement sa mission. Il l'a rempli, mais enfin, malheureusement, il a mêlé aux directions divines les tendances de la chair. Il fut faible devant les femmes, notamment, ce qui lui valut une grande humiliation et une fin tragique. Mais enfin, ces écarts de conduite n'ont pu que gêner sa mission, qui toutefois est arrivée à son but. Et maintenant, il nous faut conclure et dégager de tout cela une leçon. On peut dégager plusieurs leçons. D'abord, celle de nos compromissions, de nos propres compromissions avec le monde. Ça a toujours été, pour l'Église de tous les âges, la menace, le monde. Se mettre sur le même plan que le monde, échanger avec le monde des moyens, des idées, des intentions, de l'autorité et toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Faire des emprunts au monde, se placer même sous la protection du monde, comme Israël, à ce moment-là, se plaçait sous la protection des Philistins, peuple fort qui dominait. Enfin, alors, on voit l'Église rechercher la protection du monde. C'est toujours dans ce mauvais esprit que l'Éternel ne peut pas supporter. Alors donc, il y a le problème de nos compromissions avec le monde, dans la leçon que nous avons à tirer de la vie de Samson. Compromissions contre lesquelles Dieu va réagir de manière diverse. Il réagit toujours, et de manière diverse. Il réagit par exemple par les persécutions. Il réagit de cette manière-là. Il ne veut pas de nos ententes avec le monde, dont il nous a séparés. Je ne suis pas du monde, eux non plus ne sont pas du monde. Ils sont dans le monde. L'Église est dans le monde, mais n'est pas du monde, n'appartient pas au monde, ne puise pas ses moyens, sa force, ses intentions, ses prérogatives au monde. Pas du tout. En persistant à vouloir composer avec le monde, nous ne pouvons que nous attirer des difficultés. Et Dieu en suscitera. Ensuite, nous pouvons dire que Samson est la figure de ceux à qui Dieu a attribué une grande mission de foi, en leur confiant de la force et des dons, et qui n'accomplissent leur tâche que partiellement ou qu'imparfaitement. Il est donc la figure de ceux-là. Quelquefois, certains accompliront leur mission de façon excellente dans les débuts de leur ministère, pour ensuite faiblir et se laisser dérouter de la voie juste. Un ministère peut avoir bien commencé et mal se terminer. Au départ, l'esprit, à la fin, la chair. Salomon, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple dans l'Ancien Testament, Salomon, lui, nous fournit précisément l'illustration de cela. Salomon a très bien commencé, magnifiquement commencé, et puis la chair est venue et a tout gâché, Samson a terminé son règne d'une façon absolument lamentable, si bien que après, Dieu a été obligé de diviser le peuple d'Israël en deux peuples, et cette division venait précisément de l'inconduite de Salomon. Comme Salomon, certains auxiliaires de Dieu, magnifiquement qualifiés lors de leur appel au service de Dieu, sont partis avec une foi ardente, puis, peu à peu, se sont laissés corrompre en leur esprit et en leur âme. Pas toujours par l'essence, mais en leur esprit et en leur âme. Comment, en effet, en est-on arrivé à s'accorder avec le monde, à limiter, à accepter de lui ce qu'Abraham a refusé au roi de Sodome? Pourquoi et comment Jérusalem est-elle appelée Sodome et Égypte dans un sens spirituel au chapitre 11 de l'Apocalypse? Pourquoi cela? Oui, Jérusalem est appelée Sodome et Égypte. Pourquoi cela? Parce que des hommes qui ont bien commencé ont mal continué et surtout mal fini l'exercice du ministère qui leur avait été confié. Et je ne veux pas citer à notre époque maintenant des noms. Toutefois, nous en connaissons. Ils ne sont pas très loin de nous, qui sont plus de ce monde maintenant, mais enfin, qui ont exercé encore dans le cours du XXe siècle, et qui sont partis avec une authentique qualification dans un ministère vraiment bien pourvu, un ministère même éclatant, et qui ont très mal terminé. Et alors cela est infiniment douloureux, et Samson est l'exemple de ça. Mais enfin, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que Dieu a voulu briser l'entente qui était en train de se former entre une nation païenne et son peuple. Parce que ça, c'était la fin, absolument la fin du plan de Dieu. Le plan de Dieu aurait été complètement détourné et anéanti. Et donc la leçon qu'il faut principalement retenir, c'est celle de notre séparation avec le monde. Dieu y veille. Si son peuple n'est pas séparé du monde et ne vit pas dans cette séparation, tout en étant dans le monde, eh bien ce peuple-là, ce peuple de l'Église, ne peut absolument pas accomplir les desseins de Dieu. Et maintenant, malheureusement, nous voyons encore se reproduire ces mêmes erreurs d'un rapprochement, d'une recherche, d'un appui. Un appui, on voudrait encore peut-être à certains égards s'appuyer sur le monde. C'est comme dit la parole, comme si on s'appuie sur l'Égypte, c'est un roseau qui plie et qui perce la main. Alors ça c'est condamnable au plus haut chef. Absolument condamnable. Dieu ne veut pas, Dieu et a un regard sur l'Église extrêmement perçant, extrêmement vigilant. Il ne veut absolument pas du rapprochement. Les moyens de la chair, les moyens qui ont traîné les mauvais lieux, qui viennent des balles les plus infâmes, tel le rock'n'roll, et puis amener ça dans l'Église. Mais c'est une folie, chers amis, je vous le déclare, parce qu'il faut le dire, sans embâche, c'est une folie. Voyez l'histoire de Samson, comment Dieu réagit en pareille circonstance. Il ne veut absolument pas cela. Il faut que le peuple d'Église, comme autrefois le peuple d'Israël, se tienne à part, soit une nation mise à part, une nation sainte. Et ce n'est pas pour rien que Pierre, dans sa première épître, chapitre 2, reprend ces termes de l'Ancien Testament qui concernaient Israël, une nation sainte. Une nation sainte, pourtant, l'Église n'est pas une nation, mais il reprend ces termes-là pour montrer que les mêmes consignes d'autrefois sont là, qui président maintenant à la conduite que l'Église doit tenir. Voilà, chers amis, une leçon extrêmement importante. Pensez à l'agitation que Dieu n'a pas hésité à provoquer dans ce temps-là, pour commencer à délivrer Israël de la domination des Philistins et surtout d'une entente avec ce peuple païen. Que le Seigneur nous fasse comprendre ces choses et nous en fasse et nous en représente toute la valeur aujourd'hui. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous voulons, Seigneur, recueillir du Saint-Livre toutes les leçons qu'il nous apporte. Il n'y en a aucune qui soit superflue ou qui ne nous intéresse pas. Toutes, elles nous concernent. Et nous voulons, Seigneur, particulièrement recevoir celles qui se dégagent maintenant de cette histoire de Samson. Samson qui intervient dans le temps des juges et qui brise ce qu'il faut briser et qui s'oppose à ce que Dieu ne peut supporter, cette fusion, cette entente qui se prépare entre la nation sainte et son environnement païen. Ô Seigneur notre Dieu, donne à l'Église de bien comprendre cette leçon, de bien y réfléchir, et veuille, Seigneur, maintenant aussi empêcher que le monde ne soit accepté, que l'on aille même vers le monde pour y trouver des appuis et des moyens dont Dieu ne peut pas accepter dans le sein de son Église qui est sainte, qu'il veut irrépréhensible et sans tache. Ô Dieu de paix et d'amour, Seigneur, veuille intervenir, veuille bénir ton Église et l'éclairer pour qu'elle ne se livre pas à ses ennemis au nom de Jésus. Amen.